Bonsoir à tous. Des affrontements ont eu lieu le week-end dernier entre les soldats fidèles à Laurent Kunda et ceux de l'armée régulière. C'était dans les collines autour de Sake, à 30 km au sud de Goma. Ces affrontements ont commencé il y a 2 semaines et se poursuivent alors que le président de la Troisième République vient d'être installé. L'existence d'une armée dissuasive républicaine capable de défendre le territoire et les citoyens est un des défis majeurs à relever pour cette Troisième République qui commence. Or, dans les derniers affrontements à Sake, certaines populations ont regretté le pillage de leurs biens par les FRDC. Et s'il faut revenir au week-end dernier à Faradje, en province orientale, les habitants se sont levés pour réclamer le départ de militaires des FRDC qui gardent le parc de la Garamba. Ils les accusaient d'avoir frappé 2 enseignants. Vous vous souvenez également des 3 fosses communes découvertes il y a 3 semaines près d'un camp militaire à Bavi, en Ituri. Certains militaires FRDC de la 1ère brigade intégrée sont actuellement aux arrêts et soupçonnés d'avoir exécuté des civils. Après tous ces faits, des questions se posent sur les défis militaires en ce début de la 3ème République. Comment faire en sorte que les FRDC garantissent l'intégrité du territoire? Comment éviter que les populations congolaises soient victimes de ceux qui sont censés les protéger? Des questions qui intéressent de nombreux auditeurs et qui envoient leur message. Roger Bakatsuraki de Rutshuru dans le Nord Kivu dit qu'il faut permuter toutes les autorités militaires à l'Est. Et Mvoaka de Matadi pense qu'il faut refaire l'armée sur base de critères, surtout tenir compte du niveau d'études et bien payer les soldats pour qu'ils fassent correctement leurs devoirs. Pour José Kongolo de Kananga, les dirigeants actuels doivent négocier avec les chefs de milices, en particulier Laurent Kunda, pour les réintégrer dans l'armée afin de répondre aux attentes de paix des populations. Et André Tiaga de Pimbandaka pense que ce sont les anciens rebelles qui ont la solution durable au problème Kunda et à l'armée congolaise. Et bien pour répondre à toutes vos questions et opinions dans ces studios, M. Robert Mena, vice-ministre de la Défense chargé de l'intégration, et depuis Nancy en France, nous aurons Moïla Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique, et il est auteur du livre « Le défi de l'armée en RDC » paru il y a 1 mois et demi. Nous aurons aussi Jean Bosco Lalo, président de la Société civile de l'Ituri, et Johnson Luneno, président de la Société civile du Nord Kivu. Tous ces invités, nous l'espérons, seront ouverts à d'autres questions et opinions.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-999-222.
Comment les FRDC garantissent l'intégrité du territoire et comment protègent-ils les populations? C'est la première partie de cette émission, mais avant d'aborder le problème avec nos invités, voyons d'abord la situation de ce week-end au Nord Kivu. Nous le disions déjà, les troupes gouvernementales ont lancé samedi dernier une offensive contre les positions de Laurent Kunda à Karuba et à Mushaki, à 10 kilomètres de la localité de Sake. Cette offensive semble n'avoir pas donné des résultats attendus. Selon des responsables de la 8e région militaire, les soldats fidèles à Laurent Kunda occupent toujours ces 2 localités. C'est la même situation à l'ouest de Sake, où les insurgés occupent encore la localité de Kingi et une partie de Kimoka à 4 km de Sake. Notre consoeur Gisèle Cage suit ces événements dans la région depuis 3 semaines. Elle a été jointe ce soir même à Goma par Claude Kianza. Je vous propose de suivre leur entretien. Bonsoir Gisèle Cage.
Bonsoir Claude Kianza et bonsoir à tous nos auditeurs.
Gisèle, quelle est la situation sécuritaire actuelle au Nord Kivu depuis les affrontements entre l'armée régulière et les insurgés fidèles à Laurent Kunda?
Il faut dire que le dernier cas pour illustrer la complexité de l'insécurité au Nord Kivu, c'est cet échange des tirs intervenu hier dimanche entre les éléments insurgés eux-mêmes à Louchébéré, à 6 km de Massissi Centre. Selon des habitants sur place qui ont contacté Radio Okapi lundi très tôt matin, les tirs ont commencé hier dimanche vers 19h. Environ 30 éléments de la 81e brigade fidèle à Laurent Kunda, dont certains sont originaires de la même localité de Louchébéré, venaient d'abandonner leur position avec intention de s'y rendre auprès des autorités de la 8e région militaire à Goma. Alors, un groupe de militaires en provenance de Katalé, le quartier général de la 81e brigade, serait venu pour les en empêcher. ce qui a conduit à des échanges et des tirs entre les deux groupes. Et le bilan de ces échanges serait de 2 morts, dont un sous-lieutenant, 8 blessés et plusieurs autres éléments parmi ceux qui voulaient faire cette défection ont été pris en otage, selon toujours nos sources sur place. Donc nous nous trouvons dans une situation où, d'une part, des troupes régulières affrontent celles qui sont restées fidèles au général Bessun Kunda, et d'autre part, les insurgés eux-mêmes qui s'affrontent, bref, plusieurs fronts armés au Nord Kivu.
Et des combats de ce week-end, Gisèle, que s'est-il passé exactement?
Bon, c'est-à-dire, les FARDC ont lancé une offensive contre les positions de Nkunda vers Karuba, Mushaki et les collines au-dessus de Sake et de Kimoka. Un responsable de la 8e région militaire nous a dit qu'il s'agissait des opérations lancées par la 14e brigade intégrée en vue de déloger les insurgés fidèles à Nkunda des localités de Mushaki et de Karuba. C'est situé à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Sake. Mais dans l'après-midi du même samedi, les tirs se sont estompés, ce qui a permis le retour des populations de Sake dans leur milieu en provenance de Mubambiro, où ses habitants avaient trouvé refuge. Et le bilan des affrontements de ce week-end est de 4 morts côté FARDC et 10 blessés, d'après des responsables militaires. Et la situation est redevenue calme depuis ce week-end, mais d'après des responsables de la 8e région militaire, dans la nuit de dimanche à lundi, les insurgés ont lancé 2 roquettes sur les positions des FARDC sur les collines de Sake, mais les FARDC n'ont pas riposté et il n'y a pas eu de morts ni de blessés.
Gisèle, est-ce que les troupes de la MONUC sont aussi intervenues dans les combats de ce week-end aux côtés des FARDC?
Écoutez, la MONUC n'est pas intervenue dans ces combats. Son porte-parole militaire à Goma a déclaré ne pas avoir été informé de l'offensive.
Et quel est l'aboutissement des combats de ce week-end?
Ce que nous détenons de la 8e région militaire, malgré cette offensive de l'armée régulière, cette dernière n'a pas pu déloger les insurgés de leur position comme c'était envisagé au départ.
Et la situation à Bunagana et Runyoni, dans le territoire de Rutshuru, là aussi il y a eu des combats la semaine dernière entre les loyalistes et les insurgés. Gisèle, comment est la situation aujourd'hui?
Bon, pour l'instant, la localité de Bunagana est totalement libérée des insurgés, mais Runyoni est toujours entre les mains des hommes fidèles à Nkunda, d'après les responsables de la 9e brigade intégrée à Rutshuru. Il faut rappeler que là aussi, la 9e brigade avait lancé une contre-offensive à Runyoni la semaine dernière pour libérer cette localité, mais sans succès.
Gisèle, pour revenir un peu en arrière, dites-nous comment les FARDC se sont comportés lors des affrontements dans la région de Sake.
Bon, il faut dire que ce que nous avons observé dès le déclenchement des hostilités le 24 et 25 novembre dernier, les autorités militaires n'ont pas hésité à reprocher à la 11e brigade intégrée d'avoir montré beaucoup de limites face aux insurgés sur le terrain. Ce que nous avons constaté à Goma, par exemple, c'est que ces militaires de la 11e brigade intégrée, après avoir décroché du front de Sake, sont arrivés à Goma en ordre dispersé. Cette situation a poussé les autorités militaires à remplacer cette brigade par la 14e brigade intégrée qui était alors cantonnée au centre de brassage de Rumangabo. Avec l'appui de la MONUC qui a disponibilisé des hélicoptères de combat, une contre-offensive a été lancée le lundi 26 novembre pour reprendre le contrôle des Sake. Et vers 11h le même jour, déjà les troupes gouvernementales contrôlaient Sake, ce qui a facilité le retour des habitants sur place. Mais ces derniers ont déploré le fait que leurs maisons ont été pillées par des soldats loyalistes qui ont reconquis Sake. Un jour après la récupération de Sake, nous avons constaté par exemple des militaires qui quittaient Sake avec des matelas, des casseroles et des postes récepteurs de radio. Suivons plutôt les témoignages des habitants de Sake que nous avons rencontrés sur place.
C'est
vrai, ici presque toutes les maisons ont été pillées. Chez moi personnellement, ils ont tout pris. Même les biens du bébé ont été emportés. Le pillage a bel et bien eu lieu, j'en suis un témoin oculaire. Ce sont nos militaires, c'est-à-dire nos forces loyalistes, qui nous ont pillés. Ils m'ont trouvé chez moi et m'ont pris mon argent et beaucoup d'autres biens. Je ne dirais pas que ce sont des jeunes gens du village ou quelqu'un d'autre. Je confirme que ce sont les militaires et je peux le témoigner partout. Merci beaucoup, Gisèle Kage, et bonne soirée à Goma, dans la province du Nord Kivu.
Merci, Claude Ganga.
Alors, Monsieur Robert Ménard, je rappelle, vous êtes vice-ministre de la Défense en charge de l'intégration. Vous avez suivi avec nous la situation de ce week-end ainsi que les événements passés. Est-ce que les offensives des FARDC contre les insurgés de Laurent Kunda vont continuer?
D'abord, avant d'intervenir, j'aimerais revenir un peu sur la situation telle qu'elle a été relatée à Sake. Parce que j'étais à Sake et je reconnais la voix de Madame Gisèle.
Pas ce week-end, quand même.
Non, le week-end où il y a les événements. Je ne parle pas de ce week-end. Ce week-end, qu'est-ce qu'il y a à faire à Sake? J'étais à Sake le week-end des événements, personnellement sur place avec le ministre Kaloumé. Et nous avons fait une visite à pied de Sake pendant qu'on tirait encore à 1 km, 2 km et demi. Et j'ai visité plusieurs maisons. Et le lendemain, je suis revenu en compagnie du chef coutumier de Sake. Et on a constaté, et on était vraiment très contents, que la majorité des maisons étaient fermées à clé avec Kanta.
Donc, ça veut dire que les populations étaient réfugiées ailleurs.
Oui, les populations étaient réfugiées à Goma. C'est nous qui sommes arrivés à Sake. On a tenu des meetings avec la population pour leur demander de revenir à Sake. Évidemment, on leur a demandé de revenir le lendemain parce que le jour où nous-mêmes on était à Sake, Sake n'était pas encore sécurisé. On pouvait, avec des jumelles, voir des rebelles sur certaines positions élevées qui ont dû être prendre la nuit pour que le lendemain la population puisse rentrer dans Sake. Et nous avons pris soin de visiter la ville à pied et nous avons constaté que la majorité des maisons, en tout cas plus de 90% des maisons, étaient fermées, étaient scellées. Donc à ce moment-là, il n'y a pas eu pillage. Je ne sais pas ce qui s'est passé par après, parce que j'ai quand même fait 10 jours d'affilée, plus ou moins, à Goma, et j'allais à Sake presque chaque jour. Donc je suis surpris d'entendre maintenant qu'il y a eu mise à sac de toute la ville. Pendant que nous y étions, cela n'était pas le cas.
Et nous avons écouté les témoignages de population.
Oui, oui, ce sont des témoignages de population que je ne vois pas, mais moi j'étais à Sake. Je vous dis ce que moi j'ai vu. J'étais sur place à Sake, mademoiselle Gisèle était dans mon dos à 2 ou 3 mètres, j'ai même parlé avec elle.
Alors, monsieur le vice-ministre,
pour revenir aux offensives, lorsque nous étions au Nord Kivu, comme nous avons toujours privilégié la paix, la pacification et l'unité, nous avons demandé à l'époque aux troupes FADC de stopper les hostilités de manière unilatérale pour voir comment les choses pourraient se passer dans l'avenir. Mais force nous était de constater que malgré qu'on eût stoppé l'offensive des FADC, les positions FADC ont continué à être attaquées. Et c'est ainsi que vous avez vu que les FADC ont commencé à riposter chaque fois que l'opposition était attaquée. Et le problème qui se pose maintenant, c'est que c'est un pays montagneux. Donc lorsque vous êtes dans la majorité des villes comme Sake et consorts, ce sont des villes qui sont dans des vallées creuses. Et lorsque vous occupez la ville, c'est toujours assez désobligeant pour des militaires d'occuper une ville dans une vallée et d'avoir des ennemis qui sont sur la crête de la colline d'Akoukou.
Monsieur le vice-ministre, vous voulez dire que les FRDC sont en difficulté?
Je ne dis pas que les FRDC sont en difficulté, je dis que c'est la guerre. J'essaie de vous expliquer comment la guerre se passe, parce que je ne pense pas que de votre bureau ici, vous pouvez savoir comment est la topographie, comment est ceci. C'est pas pour rien que nous descendons sur le terrain, c'est pour justement venir ici et vous restituer les faits. Si les FRDC n'étaient pas en difficulté, je pense que le Rwanda serait déjà au Rwanda ou bien en Ouganda. Donc j'essaie de vous expliquer plus ou moins comment les choses se passent. Donc il y a des choses, il y a des positions qui sont acquises, qui sont dans un terrain beaucoup plus bas, et il y a des collines qui surplombent ces positions. Donc, tant que vous ne contrôlez pas la colline, quelqu'un peut à tout moment de la journée vous lancer une, deux roquettes, et vous sentez que vous n'êtes pas en sécurité. Donc, il faut à tout prix monter pour déloger les personnes qui sont sur ces collines. Donc, c'est un peu ce qui se passe, ainsi que vous voyez Sake est surplombé par Kimoka, qui est une colline, vous voyez Bunaganda est surplombé par Unyoni, qui est aussi une colline. Donc, le combat qui est en train de se passer, c'est le combat pour la prise de contrôle des collines qui surplombent les agglomérations.
Alors, vous ne nous avez pas répondu si les offensives des FARDC vont continuer, parce que là, vous avez...
Tant que les FARDC se trouveront dans des positions défavorables, elles continueront leurs offensives.
D'accord. Nous avons en ligne depuis Nancy, en France, le professeur Moïla Chiembe. Alors, professeur, bonsoir. Vous venez de suivre le reportage depuis Goma et vous venez de suivre aussi le vice-ministre Robert Mena. Faudrait-il, professeur, que ces offensives des FARDC continuent?
La première chose que je peux dire, c'est vraiment de la peine que l'on ressent, le récit du ministre, le récit des journalistes et des témoignages des gens sur le terrain. Et quand on est à milieu de Kinshasa, on ne peut qu'être peiné en tant que Congolais de savoir que notre armée est en construction et n'est pas encore en situation d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Et même là où elle fait face à une menace, quitte à l'évaluer pour savoir quelle est l'importance de la menace, elle est obligée, faute de moyens, de vivre, de vivre sur la population. On parle des pillages, des gens, même si ce n'est pas à grande échelle, le fait d'arracher un petit truc pour un bébé, ça laisse les parents dans une situation de désespérance. Mais tout ceci globalement, et la leçon qu'on peut s'en tirer, que notre pays a connu des difficultés, il n'y avait pas d'armée, on a essayé, pour des raisons de la paix, à brasser les différentes milices venues de gauche ou de droite, et cette mayonnaise n'a pas encore prise, sauf même si on peut accepter qu'aujourd'hui il y a au moins 14 brigades qui ont été brassées, mais on n'est pas encore arrivé à avoir véritablement un corps d'élite qui, non seulement sait se battre, possède l'art militaire, mais en plus, la condition même militaire n'existe pas. Parce que il faut voir aussi, si ces hommes doivent aller se battre, je ne sais pas contre qui ils se battent, mais il y a des conditions minimales qui, si elles ne sont pas remplies, il est impossible d'attendre d'un soldat un rendement quelconque, par exemple.
Alors, nous reviendrons à vous, professeur. Il y a des réactions des auditeurs. Alpha Bounia, l'armée existe, mais il faut mettre à sa disposition le nécessaire et voir si Laurent Kunda continuera à faire la guerre. Il y a Mouima Kabanza depuis Kipushi au Katanga qui pose la question de savoir combien d'hommes a Laurent Kunda pour tenir tête au FRDC. C'est presque la question qui revient avec Christin Degoma et Jean-Paul Maroussou de Boutembo, toujours au Nord Kivu. Et plus direct, il est plus direct, lui, il demande ce qui manque au FRDC, armé de toute une nation pour neutraliser une milice bien localisée. Monsieur le vice-ministre.
Oui, ce que j'aimerais pour répondre à notre ami de Nancy, c'est que c'est vrai que la mayonnaise n'a pas pris et actuellement la moutarde commence à monter au nez des gens. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans une phase de brassage, comme on dit, donc il y a des anciennes factions armées qui sont en train d'être réunies ensemble pour enfin avoir une seule chaîne de commandement et passer, après cela, nous allons avoir des forces qu'on appelle de couverture et puis passer à la restructuration et la montée en puissance de notre armée. Mais le problème qui se pose, c'est plus un problème politique qu'un problème militaire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la province du Nord Kivu présente certaines particularités. Vous avez un gouverneur qui est issu d'une composante, vous avez un commandant de région qui est issu de la même composante du gouverneur, et vous avez les unités qui sont en train de se battre contre l'armée congolaise. Ce sont des unités qu'on peut qualifier de mutines, puisque ce sont des unités qui sont équipées et payées par l'armée congolaise. En fait, c'est une partie de l'armée congolaise qui attaque une autre. Et je ne dirais pas que l'armée s'est déstructurée, parce que vous savez que nous avons mis une structure de commandement conformément à l'accord global et inclusif. Et cela nous pose certains problèmes, justement, pour pouvoir opérer au niveau militaire, parce qu'il y a quand même, on doit quand même le dire, il y a un problème de loyauté vis-à-vis de l'armée.
Est-ce que ce sont là tous les problèmes? Il n'y a pas de problème logistique, il n'y a pas de problème de solde?
J'en viens. Le problème de solde, il n'y en a pas. Il n'y a que les 81e et 83e brigades qui actuellement sont en train de se battre contre les FRDC, qui n'ont pas reçu la solde du mois de novembre, et pour cause. Ces deux brigades, d'abord, refusent d'aller au brassage depuis 2 ans. Et ensuite, ces deux brigades ne font pas 2 mois sans tirer sur les autres éléments des FRDC, bien qu'elles en soient membres. Donc,
vous là, comprenez... sont les problèmes des insurgés, mais les problèmes des FRDC?
Les problèmes des FRDC, les soldes, les gens sont... Les brigades d'écrivain sont payées par, en collaboration avec le SEC, donc avec l'Union Européenne. Il n'y a pas de problème de retard de paiement de ce côté-là. Peut-être modicité de paiement, mais pas de retard.
Alors, en attendant qu'on retrouve à Goma Jason Luneno, président de la société civile, on revient à vous, professeur Moïla Chiembe. Est-ce que vous croyez que dans l'état actuel, les FRDC peuvent déloger Laurent Kunda? C'est la question qui revient chez la plupart de nos auditeurs.
On ne peut pas dire à 1000 kilomètres des lieux que les FRDC peuvent déloger Kunda. Il faut d'abord savoir qu'est-ce que Kunda représente en termes d'hommes, en termes d'équipement, en termes de détermination, parce que pour s'attaquer à quelqu'un, un ennemi ou à un adversaire, quel que soit le mot que l'on puisse employer, il faut d'abord évaluer l'importance des hommes autour de Kunda, savoir quel est le type d'équipement dont ils disposent et quels sont comment dirais-je, les objectifs poursuivis. Parce que la détermination des hommes au combat est toujours liée à la croyance qu'ils portent et aux objectifs poursuivis. Si j'ai bien compris, monsieur le ministre, il s'agit d'une mutinerie. Alors, c'est ça qui est un peu abadakraba, parce qu'on ne peut pas comprendre que si les hommes de Punda, d'après le ministre, sont partis de forces armées de la République démocratique du Congo et que ce sont, ces forces sont en dissidence actuellement, donc en mutinerie, il s'agit d'une question à l'intérieur d'une armée. Et elle ne veut pas prendre autant d'ampleur sans que les responsables de l'armée eux-mêmes décident au plus haut degré, donc de l'État, de ce qu'il fallait faire ou de ce qu'il faut faire dans les meilleurs délais pour préserver la sécurité des personnes et des biens. C'est ça qui n'est pas compréhensible.
Monsieur le vice-ministre, le professeur Moïla Tchimbe a posé un problème d'évaluation. Est-ce que le gouvernement aujourd'hui sait évaluer la capacité défensive et même offensive de Laurent Kunda?
Vous savez, nous ne sommes pas en train de débaucher une théorie académique. Je suis surpris que le professeur ne sache pas que la 81e, la 83e brigade, qui est en train de se battre actuellement contre les éléments FADC, fait partie des FADC. Je vous ai bien dit tout à l'heure, nous venons d'une situation telle que chaque composante, la majorité des composantes plutôt, avait des factions armées. Et certaines composantes ont refusé de remettre toutes leurs factions armées dans le processus de brassage. Elles les ont gardées justement de côté pour nous amener aux événements que nous vivons. Nous avons vécu des événements en plein cœur de Kinshasa il y a un mois avec des éléments armés d'une composante. Et aujourd'hui, nous vivons les mêmes éléments, les mêmes événements un peu plus loin avec les éléments armés d'une autre composante. Et comme ceux qui sont passés à Kinshasa, tous ces éléments armés sont payés, équipés et entraînés par l'État congolais.
Mais est-ce que vous connaissez leur capacité de défense ou de...
Ce qui se passe, le problème qui se pose principalement avec M. Laurent Kunda, c'est qu'il peut aligner plus ou moins 5000 combattants qui sont là, mais il y a une chose, c'est qu'il dispose d'une armée de réserve, étant donné que dans la province du Nord Kivu, le taux de démobilisation était plus ou moins de 65 à 70%. Donc, tous les démobilisés qui sont dans la région, il suffit qu'ils sifflent un seul coup, et du jour au lendemain, ils prennent des tenues, et puis ils sont armés, et ils sont en fait, ça constitue pour lui une armée de réserve, étant donné que avec le plan DDR, les démobilisés sont plus ou moins tous restés dans les contrées où ils ont eu à exercer leurs actions de miliciens.
Alors nous allons rejoindre Jason Luneno à Goma. Il est le président de la société civile. Bonsoir, monsieur Jason.
Bonsoir.
Alors, vous êtes tout près de la population. Est-ce que vous pouvez d'abord nous confirmer s'il y a eu des pillages ou pas à Sake?
Ah, effectivement, et la population de Sake a connu effectivement des problèmes parce que nous avons vu les militaires revenir avec des radios, avec des matelas, avec des effets. Nous ne pensons pas que quand on va au front, on y va avec des radios, on y va avec des appareils ménagers, ainsi de suite, des matelas. Donc ce sont des effets qui ont été récupéré effectivement dans la cité de Sake. Et au moment où nous vous parlons, nous sommes en train d'enregistrer toutes ces personnes victimes qui ont perdu, qui ont eu leur maison dévalisée. Ce sont des centaines et des centaines. D'ailleurs, les comités chargés de la distribution de l'aide qui a été accordée par le chef de l'État, on a déjà un nombre élevé de personnes qui ont déclaré des biens qui ont été pillés. Donc je vous confirme que les habitants de Sake, effectivement, ont vu leur maison pillée. Il y a certaines maisons, justement, qui n'ont pas été pillées, mais la plupart au moins ont été pillées.
Alors, monsieur Jason Luneno, vous représentez la population. Aujourd'hui, nous avons le vice-ministre en charge de l'intégration qui est dans ses studios. Quelle est la question que la population du Nord Kivu se pose aujourd'hui et que vous pouvez poser au vice-ministre présent?
C'est deux questions. La première question, c'est de demander au vice-ministre de la Défense que pensent faire les FARDC par rapport aux armes qui sont en train d'être utilisées par les insurgés aujourd'hui sur les éléments de FARDC. Il y a des armes lourdes, il y a des bombes. Est-ce que les FARDC vont continuer à être déployés avec des armes d'assaut, donc des armes individuelles, pendant que les insurgés utilisent des bombes? Ça, c'est la première question. La deuxième question, cette situation de souffrance va-t-elle continuer jusqu'à quand? Parce que la population qui souffre, cette souffrance ne pourrait pas continuer et faire des mois et des mois. Donc, ce sont des préoccupations majeures que nous souhaiterions vraiment avoir des réponses urgentes de la part du ministère de la Défense.
Voilà, nous retenons ces questions. Monsieur le vice-ministre les auditeurs, vous avez aussi suivi cette actualité. Au total, 5 officiers, un caporal et FARDC du bataillon spécial de la 1ère brigade intégrée sont déjà arrêtés par l'auditorat militaire garnison de l'Itouri à Bounia. Nous quittons un peu Goma. Selon l'auditeur de garnison de l'Itouri, ces éléments FARDC sont poursuivis pour massacre des civils déplacés de guerre dans le village de Bavi, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Bounia. Rappelons qu'il y a environ plus de 2 semaines, une équipe mixte division droits de l'homme de la MONUC et auditorat militaire garnison de l'Ituri avait découvert 3 fosses communes dans un camp des FARDC à Bavi. Et Mugoro Singoma Alejo, c'est un déplacé de guerre qui déclare avoir perdu 9 membres de sa famille, notamment sa femme légitime. Et on l'écoute, il est au micro de Jean-Paul Basila.
L'hypothèse a tout ça. Kerini Kagoro, mkubwa ya mama ya kwangu, na mama ya kwangu ndio namfuata. Androsi Kagoro, bona ile wasika wawili ni watoto wa ile mama mkubwa. Peli Kagoro, Sofi Kagoro na watoto wake wawili, miaka 6 na miaka 4. Wakiana watatu ile ni wasimiki yangu, ni kusema wakiana 3. Nilisikia habari ya kufa ya bwana mkubwa yake ya mwanamke yangu, alikuwa sirle tere pale. Alikimbia akajificha pembeni ya nyumba. Ili nikuta kwa geti na nilifika kutosa kilio ya hapa na kilio ya geti.
Monsieur le vice-ministre, alors pour ceux qui ne comprennent pas le swahili, donc il a d'abord donné le nombre de personnes qui lui sont chères et qui sont mortes, 2 filles, des nièces, aussi des belles-sœurs. Et c'est notre beau-frère qui lui a annoncé la nouvelle. Ce dernier a réussi à s'échapper après s'être caché derrière une case. Et toutes ces nouvelles lui sont parvenues à Guéti. On voit à Goma des pillages des FARDC sur les populations. On voit aussi cette histoire de massacre, au moins dans le cadre d'une présomption, à Bounia ou à Ituri. Monsieur le vice-ministre, est-ce que tout ça, ça ne vous touche pas? C'est peut-être la question aussi du président de la société civile de l'Ituri. Quand est-ce que ces malheurs vont finir sur les populations?
Je pense qu'il faudrait vraiment être une main, ne pas avoir de cœur pour être touché par tous ces faits qui sont relatés. J'ai été à Guéti il y a plus ou moins 3 semaines et c'est 2 jours après mon départ que j'ai suivi par la voie de la presse la découverte de fosses communes. On avait dit à Guéti, pas à Bavi.
À Bavi, près de Guéti.
Oui, près de Guéti. Et à Guéti, c'est là où j'ai rencontré Peter Karim, donc le représentant du FNI. Donc, nous avons à ce moment-là demandé à l'auditorat de Bounia de voir un peu clair dans cette situation, puisqu'on avait incriminé, on parlait des militaires de la 1ère brigade intégrée qui auraient fait des actions de représailles. Et je pense que l'auditorat militaire est à pied d'œuvre à ce sujet. Pour ce qui est des FADC qui sont en train d'opérer principalement au Nord Kivu, plusieurs décisions ont été prises au niveau de l'état-major général. Je pense que depuis 2 jours, le chef état-major de la force terrestre est rentré encore au niveau de Goma. On a installé un poste avancé, un quige avancé à Sake. Et il y a des opérations militaires qui se préparent, peut-être de plus grande envergure, mais je ne peux pas dire plus, compte tenu du caractère secret qu'entoure toute opération militaire, mais les dispositions appropriées seront prises, que les gens ne s'inquiètent pas. Oui. Et ils suivront ces dispositions par la voie des ondes lorsqu'il y aura des reportages.
Vous ne le dites pas encore, il y aura des questions dans ce sens, Monsieur Robert Mena et
Bernard
Mena, j'y arrive. Et on va voir aussi dans les touristes, la société civile, ce qu'elle pense. On a en ligne Jean Bosco Lalo, son président. Jean Bosco Lalo, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste.
Alors, vous confirmez aussi l'existence de ces charniers et vous estimez que les populations pourraient être vraiment victimes des exactions des pharmaciens?
Oui, mais c'est assez malencontreux ou même dire c'est contradictoire que les bergers qui sont assis garder les agneaux, si tout près d'eux ils opèrent à côté des fosses communes comme ça, ça donne des larmes aux yeux. Et c'est cela qui fait que la population s'inquiète de la présence des pharmaciens même dans certaines localités. Et aussi, on ne comprend pas comment est-ce que les autorités qui sont censées interdire ça aux militaires et trouvent des astuces pour esquiver les accusations qui sont données, donc des faits qu'on leur rapporte.
Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Monsieur Jean Bosco Lalo, sur les enquêtes ou l'action judiciaire engagée? Est-ce qu'elle suit son cours normal?
Oui, les procès, donc la poursuite suit son cours normal. Je pense que ce sont des officiers qui peuvent comparaître devant les garnisons de l'Ituri. Et nous pensons qu'ils vont bien le faire. Et nous le souhaitons.
Alors, monsieur le vice-ministre en charge de l'intégration et dans ces studios, vous avez peut-être une question que se posent la plupart des gens dans l'Ituri. Vous pouvez la poser?
Oui. Monsieur le ministre, ce que nous pouvons poser au vice-ministre de chargé d'intégration, c'est que les éléments de la phare des techniques sont commis à Ituri. Il faudrait que les autorités fassent plus d'efforts pour qu'ils ne puissent pas continuer sur ces mêmes pieds-là. Nous reconnaissons qu'il y a des gens qui travaillent bien, mais il y a aussi un bon nombre qui se comportent comme des miliciens et comme des vrais miliciens.
Alors, monsieur Jean Bosco Lalo, merci beaucoup. Monsieur Jason Luneno, aussi au Nord Kivu, merci beaucoup. Alors, monsieur le vice-ministre Bernard Mena, comment résoudre les problèmes qui se posent sur terrain avec vos forces? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y aura des dispositions. Est-ce que vous avez le souci en tant que gouvernement de résoudre les problèmes des FRDC et comment les résoudre?
D'abord, j'aimerais dire aux représentants de la société civile, aussi bien de l'Ituri que de Goma, s'ils m'entendent, dès qu'ils apprennent que je suis soit à Bunia, soit à Goma, qu'ils fassent tout pour qu'on entre en contact. De toute façon, moi, je les chercherai dans le cadre de la base intercommunautaire pour qu'on puisse plus partager sur la sécurité au niveau des contrées où ils habitent. Ce que je sais, c'est qu'au niveau de Bunia, nous avons beaucoup travaillé, on travaille au téléphone maintenant chaque jour avec le général Maya Lavainqueur, qui, je crois, est en train d'effectuer un travail très louable au niveau du district de l'Ituri.
Très louable, c'est-à-dire?
Il est partout et il traque les militaires et vraiment, lorsqu'il nous donne les instructions, il nous fait les rapports et vraiment, le littoral est en train de pourchasser tous les auteurs, tous les fauteurs de troubles au niveau de l'Ituri. Moi-même, lorsque j'étais en Ituri il y a 3 semaines, l'auditeur supérieur qui était là était justement en chambre foraine pour statuer sur le cas tout à fait cessant de certains militaires qui s'étaient très mal comportés. Pour en revenir à la question que vous avez évoquée, ce que je peux vous dire, c'est que, comme l'a dit le chef de l'État, l'arrestation est terminée. Les officiers qui se comportent mal ne vont plus se cacher aujourd'hui derrière leur composante pour dire qu'on ne peut pas me relever de mes fonctions tant que ma composante n'a pas donné son accord. On ne peut pas ne pas me nommer, malgré que je n'ai pas de qualification, parce que je suis recommandé par X composante ou bien par Y composante. Je pense que cette façon de gérer la chose de l'État, elle est bel et bien terminée.
Voilà, nous allons voir si c'est la seule possibilité pour résoudre les problèmes de l'armée. Nous avons en ligne depuis Nancy le professeur Moïla Chiembe. Vous avez écrit un livre sur les défis de l'armée en RDC. Comment résoudre les problèmes qui se posent? Vous avez entendu le vice-ministre Bernard Mena.
Oui, je comprends bien les explications que M. le ministre est en train de donner. J'avoue que la situation est compliquée. Tout le monde n'a pas les clés, non seulement des compréhensions, mais parfois les choses sont difficiles à faire. Par exemple, dans le cas de Kunda, je voudrais peut-être poser une petite question à M. le ministre. Est-ce que quelle est la revendication des hommes de Kunda ou de Kunda lui-même? Pourquoi cet officier supérieur de notre armée a des forces partent vers lui et il s'attaque aux forces régulières de l'armée? Quelle est sa revendication? Qu'est-ce qu'il recherche?
Là, vous n'avez pas donné de solution, mais on va laisser M. le vice-ministre répondre à cette question et aussi à la question de Luneno.
Oui, à ce jour, la seule revendication connue de M. Laurent Kunda, c'est qu'il mène une action pour protéger sa communauté. C'est à ce titre qu'il était arrivé, il avait quitté son commandement qui était au Sud-Kivu. Il est entré à Bukavu, chef-lieu d'une autre région militaire, de par son gré, à l'insu de ses chefs et contre l'avis de ses chefs, soi-disant pour protéger sa communauté. Et aujourd'hui, il mène une action, toujours soi-disant pour protéger sa communauté. Il ne présente aucun cahier de charge.
Alors, il y a M. Jason Luneno de la Société Civile du Nord Kivu qui disait que Laurent Kunda a des armes et on ne sait pas d'où ces armes viennent. Monsieur le vice-ministre, est-ce que pour avoir une armée qui défende vraiment l'intégrité du territoire, vous ne devriez pas contrôler l'armement militaire au niveau de la défense?
Vous savez, au niveau de la défense, nous avons fait le brassage des hommes, mais il n'y a pas eu brassage des armes. Donc toutes les armes que vous voyez qui circulent au niveau de l'armée aujourd'hui FADC, ce sont les armes qui ont été achetées par ce qu'on appelait l'ex-gouvernement. Donc que ce soit le MSC, que ce soit le RCD, que ce soit le RCD KML, aucune de ces composantes n'a amené son armement. Quand je parle de son armement, je ne parle pas des armes légères individuelles, je parle des armements lourds qu'ils ont utilisés durant la guerre d'agression. Aucune amenée d'armement lourd, aucune amenée d'hélicoptère, aucune amenée en avion de chasse, aucune amenée en tank. Tout ce que vous voyez comme hélicoptère, comme avion de chasse, comme tank, ce sont les armes qui viennent de ce qu'on appelait l'ex-gouvernement. Donc, on sous-entend, on suppute que ces composantes ont des caches d'armes qu'elles comptent utiliser. Donc, en dehors du brassage des hommes qui a été fait, le brassage des armes n'a jamais été fait. Donc, il ne faut pas être surpris lorsque vous voyez certaines personnes qui disposent d'un armement.
Est-ce qu'il y a un schéma pour continuer et parachever ce brassage?
Oui, le schéma est connu. Nous avons un programme national d'aider pour parachever le brassage. À ce jour, nous avons brassé plus ou moins 51 000 hommes dans 14 brigades intégrées. Il reste encore plus ou moins 97 000 hommes à faire passer par le processus. Donc, si vous avez un taux de... Le taux moyen jusqu'à présent, c'était un taux de 30% d'intégrés, 60% de mobilisation. Mais étant donné que nous estimons que nous allons maintenant vers les troupes d'élite de chacune des composantes, dont le taux de mobilisation va largement baisser, nous pensons que sur les 97 000, nous aurons plus ou moins 40 000 personnes intégrées, parce qu'il faut non seulement déflatter le chiffre en tenant compte du taux de mobilisation, mais aussi déflatter le chiffre en tenant compte d'effectifs.
Mais c'est de ces brassages que provient, par exemple, la première brigade intégrée en Ituri, et vous voyez ce qu'elle fait.
La première brigade intégrée n'a pas été brassée, c'est une brigade mixte, donc on a pris des éléments comme ça, mais ils ne sont pas allés dans un centre de brassage au sens que nous appelons brassage.
Debello à Ouvira, il y a nos auditeurs qui posent énormément de questions, estiment que le problème Kunda, ainsi que celui de l'armée congolaise, c'est l'affaire des autorités et des ex-belligérants. Comment alors la résoudre? Il y a aussi André Tiaka de Pimbandaka qui pense que pour trouver une solution durable en Kunda, les anciens rebelles doivent y répondre politiquement. Est-ce que ce schéma est envisagé par le gouvernement aujourd'hui?
Je pense que la position du gouvernement, la position officielle est claire. Vous avez vu que le général Kunda a été déchu de son grade de général. Le gouvernement a lancé un mandat d'arrêt international contre le général Kunda. Et à ce que je sache, la position du gouvernement n'a pas encore changé officiellement. Donc, moi, je suis membre du gouvernement, je ne dirige pas le gouvernement. Donc, c'est une question qui doit être abordée au niveau du gouvernement. Et je pense que cette question est d'actualité. Elle manquera pas d'être abordée à la toute prochaine réunion qu'il y aura du gouvernement. Et à ce moment-là, une position nette et claire sera donnée.
Professeur Moïla Tchiembe, vous avez suivi la réponse du ministre à cette question de résolution politique du problème Kunda ou des autres miliciens. Est-ce que vous croyez que la voie politique devrait être privilégiée ou il faut continuer sur la voie militaire?
On ne peut qu'être inquiet. D'une part, si ce monsieur Kunda a été déchu de son grade d'officier supérieur et qu'il doit être traduit devant une juridiction internationale, il est du devoir de l'État congolais, y compris la monnaie, parce que je ne comprends pas pourquoi cette responsabilité est seulement à l'État congolais, dont on sait que l'armée est en construction, donc qui n'est pas en situation de combattre ou même de forcer la note pour désarmer Kunda. Si on prend les éléments que les auditeurs ont donnés, la monnaie doit prêter la main forte au FARDC pour pouvoir non seulement désarmer M. Kunda, et au cas échéant, l'attraper et le mettre devant la juridiction internationale. À moins que, pour une raison ou une autre, le gouvernement puisse considérer qu'il ne s'agit pas d'une situation déplorable et qui peut plonger notre pays encore dans un autre chaos, notamment dans le Nord Kivu et au-delà, et qu'en conséquence de quoi, il faut que le gouvernement agisse dans tous les cas. Et l'auditeur avait posé tout à l'heure la question à M. le ministre, lui demandant mais que compte faire les FARDC ou le gouvernement. C'est au gouvernement de prendre sa responsabilité. Je sais que tout ça est difficile, on peut le dire facilement, mais sur le terrain, ça se fait difficilement. Mais nous, en tant que citoyens congolais, notre devoir, c'est de nous adresser à ceux qui gouvernent,
voilà,
au ministre de la Défense, par exemple. On ne peut pas laisser les choses en l'état, et quelle que soit la perspective qui puisse s'engager. Et la
professeur,
meilleure de l'aborder.
Oui, professeur Moïla Tchiembe, très rapidement, dans 30 minutes, est-ce que la voie que vous proposez pourra résoudre les problèmes qui se posent sur terrain?
Ben, c'est-à-dire que, premièrement, dans la phase actuelle, dans le livre que vous avez cité, je pars du postulat que l'ensemble des milices venues d'horizons divers que le pays a accepté pour la transition au nom de la paix ne constitue pas encore l'armée républicaine. Donc on doit s'entendre. L'effort de brassage qui se fait doit continuer afin de purger, d'abord choisir, hein, regarder parmi les hommes et les femmes qui sont là, qui est-ce qui a la compétence militaire. Parce qu'on ne peut pas faire l'armée avec n'importe qui. Donc, il y a obligation de faire un choix sur les hommes et sur les femmes, évaluer leur qualité, leur connaissance, non seulement de l'art militaire, de la discipline, voir leur âge, leur capacité à s'adapter, leur capacité intellectuelle pour savoir éventuellement demain une armée moderne républicaine, c'est une armée de métier.
Merci beaucoup, professeur Moïla Tchiembe. Je rappelle que vous êtes professeur de géopolitique en Nancy et que vous avez écrit le livre sur les défis de l'armée congolaise. Nous avons écouté aussi le vice-ministre Bernard Mena. Il y a de nombreux auditeurs. Bonsoir, Aimé Séa. Alors, que disent les auditeurs?
Oui, nous commençons par cette réaction de Jean Mbandaka qui trouve que la formation d'une armée qui sera à la hauteur de ce pays n'est pas prise au sérieux car jusqu'alors, les autorités n'ont pas la maîtrise de l'effectif militaire. Albert Kaoudi à Beni au Nord Kivu regrette que ce qui se passe présentement au Nord Kivu. Il demande au vice-ministre chargé de l'intégration de l'armée de ne pas céder à la demande de Laurent Kunda. Trésor Wanadi à Mbujimayi, c'est dans le Kassai oriental, dit ceci. Qui veut la paix, prépare la guerre, dit-on. Joseph Kabila doit former rapidement une armée forte avant toute autre chose. Toujours à Goma, Gédéon Kapinga trouve que les FARDC sont incapables de frapper Kunda, car parmi eux, il y a des traîtres qui appuient Kunda. Njele de Rutshuru, dans la province du Nord, qui vous demande ce que pense le gouvernement sur les attaques de Runyoni et de Masisi. Et pourtant, la récréation est déjà finie, dit-il. Et Rose trouve qu'à Goma, on ne voit pas comment la fin de la récréation a été sifflée, surtout que Kunda et sa clique continuent à se moquer de bons discours de nos autorités élues et de notre armée.
Alors, pas vraiment de temps pour lire toutes ces opinions. Monsieur le ministre, on va conclure avec vous. 30 secondes. Qu'est-ce que vous réagissez? Quelle est votre réaction par rapport à toutes ces opinions des auditeurs?
Oui, tout ce que je peux dire à tous les auditeurs, c'est que on ne forme pas une armée en 2 ans, en 3 ans. Ce que nous avons commencé à la première étape, qui n'est pas encore terminée, c'est rassembler les éléments hétéroclites et éparses qui se battaient pendant 5 ans au Congo. Nous avons proposé une loi sur l'armée qui reprend le statut du militaire, les conditions, les qualifications, l'attribution des grades. Et nous espérons que cela pourrait être appliqué dans... C'est fini.
Dans le prochain gouvernement, dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Désolé, monsieur le vice-ministre Bernard Mena, de vous couper la parole. Nous avons donc parlé des défis à relever pour que l'armée nationale défende l'intégrité du territoire. Merci beaucoup à tous nos invités, monsieur le vice-ministre, professeur Moïla Tchiembe. Alors, pour ceux qui nous ont ratés ce soir, la rediffusion, c'est demain à 4h45, heure de Kinshasa, donc une heure de plus à l'est du pays. Retrouvez également cette émission sur votre site internet, www.radiookapi.net. Vous pouvez y joindre aussi vos réactions. Alors, vous tous qui avez suivi et élaboré cette émission, merci. Restez en compagnie de nos programmes et à demain.